Bonjour, je suis Pascal.
Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
Allez, c'est parti, on est dans le jus.
Amis auditeurs, amis auditrices, si tu suis un peu ce podcast, tu es sûrement déjà tombé sur un épisode de notre série « Montréal en lumière ». Pascal et moi, on a couvert la partie gastronomique de ce festival et on peut vraiment dire qu'on s'est régalé au sens propre et figuré. On a fait 12 épisodes avec certains des meilleurs chefs au monde qui sont venus cuisiner dans les meilleures cuisines de Montréal. Et on a essayé de vous faire vivre de l'intérieur ces collaborations extraordinaires. Mais depuis que le festival s'est terminé, on est un peu nostalgique. On se dit qu'on aurait aimé que ça passe un peu moins vite, qu'on aurait pu en profiter un peu plus, que ça va être difficile d'attendre l'année prochaine. Alors aujourd'hui, on vous offre un dernier épisode, en forme de conclusion. On reçoit une femme qui est restée un peu dans l'ombre, qui va probablement nous expliquer qu'elle n'a pas fait grand-chose et qu'elle n'est que le maillon d'une chaîne. Mais soyez-en certains, la réussite du volet gastronomique de Montréal en lumière, la programmation extraordinaire de cette année, c'est d'abord et avant tout grâce au travail acharné de notre invité et de son équipe. Aujourd'hui, c'est Julie qui est dans le jus.
Bonjour Julie.
Bonjour Pascal et Aymeric.
Salut Julie.
Ça va?
Ça va, oui, un peu fatiguée comme je vous le disais off
micro, bon
mais ça va.
Alors on est à quelques jours après la fermeture du festival, donc forcément la pression retombe, je suppose. Pression, hein?
Oui.
Quand même.
Oui, pression, mais il faut croire aussi que le travail commence au mois de mai. Moi, dès le mois de mai, je commence à solliciter les restaurateurs, les chefs internationaux. Donc, c'est un travail de longue haleine quand même. Il n'y a pas juste pendant le festival qu'on travaille fort.
Mois de mai, donc ça veut dire que dans deux mois, c'est reparti.
C'est reparti, oui. Mais vous connaissez un peu les chefs qui sont comme des rockstars, hein? Vous en avez rencontré plusieurs cette année. Donc, c'est des chefs qui sont occupés, qui ont des horaires chargés. Donc, si on veut les avoir à Montréal, faut les inviter tôt. Et ça, les restaurateurs de Montréal le savent aussi. Donc on est fatigué, moi et mon équipe, parce qu'on a commencé à travailler au mois de mai, mais le pic, en fait, de notre travail commence au mois de septembre. Donc, depuis le mois de septembre qu'on est sur un horaire de fou. Et puis là, on vient de terminer une séquence de 21 jours d'affilée de travail. Donc, on a hâte de prendre des vacances.
Est-ce que tu réalises déjà que c'est terminé? Est-ce que tu es encore un peu dans l'excitation? Et puis, est-ce que tu... Parce que de notre côté, c'était une réussite totale. Est-ce que tu considères que c'est une réussite ou t'as comme ou de petits regrets, tu vois les petits défauts que t'aurais aimé que ça se passe un peu mieux?
Ben, honnêtement, puis je veux faire honneur au travail de mon équipe aussi en disant ça, ça a été un 25e anniversaire digne de ce nom, des noces d'argent, ça a été exceptionnel comme année. On a eu plusieurs invités internationaux, 16 étoilés, donc 9 étoilés verts. On a eu, ben vous le savez, vous les avez reçus, Julien Royer, Glenn Vielle, on a eu Emmanuel...
J'ai fait l'erreur.
Tous les podcasts, tu fais l'erreur.
Non, mais en fait, Adrien Cachot, Mathias Marc, bref, je vais pas tous les nommer parce que ça va prendre tout le temps, mais on a eu vraiment une édition exceptionnelle.
C'était fou. C'était incroyable. Vraiment, quelle édition, quoi.
Et moi, quelque chose me dit, à mon fort intérieur... que ce n'est que le début d'une nouvelle ère.
Ben, je sens que le vent a tourné cette année, puis je pense que même si on veut pas nécessairement encore parler de la pandémie, je me permets quand même de dire que j'ai senti que cette année, c'était reparti pour vrai. Donc, dans les restos, mais pour les festivals aussi, parce que, tu sais, on parle beaucoup des restaurateurs pour le volet gastronomique, mais c'est pas que les restaurateurs, dans le sens que ça reste un festival. Donc, dans un festival, il y a plusieurs départements, il y a un rouage, il y a un travail de gestion, de coordination, de direction à faire entre différents départements pour livrer, en fait, toute l'information sur cette belle programmation, tu sais, envoyer les informations aux 50 restaurateurs qui participent au festival. C'est un travail énorme. Puis cette industrie-là du festival, elle a été aussi fragilisée pendant la pandémie. Donc, l'année passée, c'était un beau retour, mais je sens que cette année, et pour les festivals et pour les restaurateurs, on est sur une belle lancée. Et une belle lancée aussi au niveau du rayonnement de la cuisine de Montréal, des talents.
C'est fou.
Ça vibre, là, gastronomie à Montréal. C'est vraiment une vibe. Il y a quelque chose qui se passe. Quand les chefs sont débarqués à partir du 18 février, les chefs ont commencé à arriver à Montréal. Le festival commence officiellement le 22 février. Mm-hmm. Mais dès le 18, quand les chefs sont débarqués à Yule, à Aéroport Montréal-Trudeau. On l'a senti. Il y avait quelque chose qui se passait.
On l'a senti. On a vu sur les réseaux sociaux, il y a eu plein de stories de Montréal qui ont commencé à apparaître.
Ouais.
Enfin, tout le monde a commencé à en parler. Là, c'était vraiment quelque chose d'incroyable.
Ouais. Ouais.
Donc, nous, tu as fait deux personnes très, très, très heureuses. on peut le dire, on s'est régalé. Quand même, ouais. On a profité de cette programmation pour aller voir des gens dont on n'aurait jamais eu l'occasion de les approcher de si près, de leur parler, de partager un moment avec eux.
De goûter leur cuisine aussi.
De goûter de temps en temps leur cuisine. Alors, tu nous dis que ça se prépare dès le mois de mai. Qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Vous êtes tous réunis parce que tu travailles avec le responsable de la programmation, événements, spectacles aussi, pour que ça coordonne.
Ben en fait, chaque volet travaille un peu chacun dans son coin au début. Donc dès le mois de mai, moi, ce qui se passe, la première étape, c'est de trouver la thématique pour l'année suivante. Donc, c'est vraiment le plus gros du travail créatif. Évidemment, ça se fait pas seul. Je consulte des restaurateurs et je lis beaucoup. J'écoute beaucoup de documentaires. D'ailleurs, au FIFA, il y avait le beau documentaire Menu Plaisir 3 Gros, un documentaire de 4 heures.
Quel documentaire incroyable!
Tu l'as vu aussi?
J'ai vu des extraits. Ouais. Faut que je me bloque 4 heures pour le voir, mais c'est magnifique.
Moi, je suis allée le voir lundi soir. Puis c'était tout à fait incroyable. Là. Même si j'étais fatiguée, je me demandais si j'étais pour être capable là, t'sais, de toffer, comme on dit en bon québécois, 4 heures, assis dans une salle de cinéma, mais je me suis régalée pendant 4 heures. Donc, j'en parle parce que c'est des sources d'inspiration pour moi, pour les thématiques. Tout ça, tout ce qui se passe au niveau de la gastronomie internationale, locale, nationale. Il y a eu dévoilement des étoiles Michelin France aussi lundi.
Oui,
c'est ça.
Vendredi, il y a les lauriers.
Oui, c'est vrai.
Lundi prochain, pardon.
C'est le 25 mars, donc c'est lundi prochain, oui, les candidatures, effectivement. Donc, tout ça, pour moi, c'est une manne d'informations. La lecture des magazines comme Caribou, les magazines de Food and Wine aux États-Unis. Bref, je commence à me préparer pour essayer de sentir un peu le pouls des tendances internationales, locales, au niveau de la gastronomie, pour aller chercher des thématiques qui vont inspirer les restaurateurs à participer à Montréal en Lumière puis à créer des événements uniques. Puis je sonde aussi tous les restaurateurs quand ils terminent le festival, on leur envoie un sondage pour leur poser une dizaine de questions. Mais entre autres, avez-vous des idées de thématiques pour l'année suivante?
Ça fait combien de temps que tu travailles pour... Alors, c'est pour Spectra que tu travailles, qui organise le festival Montréal en Lumière. Ça fait combien de temps que tu travailles pour eux?
Ça fait 24 ans que je travaille
pour
eux.
Ah, quand même.
Donc, tu as loupé la première année. Tu étais déjà à Montréal en Lumière?
Non, je suis à Montréal en Lumière depuis 2017, précisément.
2017, OK.
Ouais,
okay.
Ouais. Donc, j'ai été gestionnaire de projet pendant 20 ans, pour le festival de jazz principalement.
OK.
Donc,
c'est un autre festival de renommée internationale à Montréal.
Pas pire, quand même.
Pour l'un des meilleurs, on s'entend.
On peut le dire humblement qu'on a quand même pavé la voie pour beaucoup de festivals à Montréal aussi.
Certains.
Est-ce que c'est une question qui pop comme ça, tu sais, moi, des fois, dans le flow de la conversation, est-ce qu'un jour il va y avoir un événement gastronomique pendant le festival de jazz ou pas?
Ben, et on en parle tout le temps de tenir un peu, de nourrir en fait Montréal en Lumière tout au long de l'année, au lieu d'arriver en février avec une programmation pendant 3 semaines. On pense des fois à faire un MEL, qui est en fait l'acronyme pour Montréal en Lumière. Affectueusement, je l'appelle le MEL. Un MEL à l'année, en fait, Montréal en Lumière à l'année pour avoir des événements comme ça ponctuels. Mais on y rêve, on travaille un peu avec Morin Oxyméry, qui est directeur en fait des programmations des festivals de Spectra. Donc, lui, il s'occupe surtout de la programmation musicale pendant Montréal en Lumière, mais on essaye de travailler ensemble pour essayer de créer des événements qui allient musique et gastronomie. On en a fait un cette année avec François Chartier qui s'appelait Vin et musique, par exemple. Donc, ça, c'était très intéressant. Fait que ça, un début de quelque chose. On essaye fort, mais en coulisses, on travaille pour que ça arrive, ouais.
Et alors, en 2017, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois transféré de la musique vers la gastronomie?
Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement au niveau de l'équipe qui était en place pour le volet gastronomique de Montréal en Lumière. Et on m'a demandé d'accompagner une consultante qui a été engagée pour la programmation gastronomique. On m'a demandé de l'accompagner pour la diriger, la guider dans ce que c'est de travailler dans un festival au niveau des opérations, de la production, de l'aménagement, les relations de presse, le marketing. Bref, la liste est longue, les commandites. Mmh. Et de fil en aiguille, j'ai assisté aux réunions de programmation gastronomique, de programmation, et j'ai un peu, si vous voulez, je me suis épanouie au niveau de ma passion pour la gastronomie qui est là depuis que je suis toute petite. Donc, je suis une passionnée de produits locaux, je suis une passionnée de ce que ça représente, la cuisine comme identité pour une communauté, pour un peuple. En fait, pour moi, la cuisine, la gastronomie, c'est de la culture comme l'art, comme la peinture. J'ai toujours été passionnée. Je vais au marché Jean Talon tous les week-ends. Je parle avec les producteurs. J'aime ça aller cueillir des asperges, cueillir du safran. J'ai fait des vendanges deux fois dans des vignobles du Québec. Je cuisine beaucoup. Puis moi, cuisiner, ça commence quand je choisis mes aliments au marché Jean Talon. C'est vraiment, pour moi, cuisiner, ça commence là. Puis d'arriver à la maison, puis de dire, ah, ben c'est des tomates de Lise et Jacques, et puis c'est la laitue de Diane, puis les légumes de la ferme des Quatre Temps. Bref, tout ça, pour moi, c'est cuisiner, c'est de la gastronomie, c'est de la culture culinaire. Donc, tout ça a sorti pendant les meetings de programmation. Et l'année suivante, on m'a demandé si je voulais être en charge de la programmation gastronomique. Donc, j'ai dit oui.
T'as hésité un petit peu ou...
J'ai été très touchée, puis j'ai dit oui tout de suite.
Donc, c'est pas toi qui as dit « je veux faire ça ». Non. C'est, ils sont venus, ils ont vu ton intérêt, ouais. Et ils ont dit « s'il te plaît, occupe-toi ».
Oui.
Ah, c'est cool.
Mon intérêt, mais ma passion, je te dirais aussi. Puis, allié à toute mon expérience dans l'industrie des festivals, c'était comme un mariage parfait. Dans le sens où, soudainement, ma vie professionnelle et ma vie personnelle étaient intimement liées. Tu sais, il n'y avait plus de frontières entre les deux parce que je faisais déjà ça, écouter des documentaires sur la culture culinaire, je faisais ça, aller au marché, parler à des producteurs, me renseigner. Donc, tu sais, j'étais abonnée au magazine Caribou. C'était déjà dans ma vie, mais là, c'est devenu mêlé à ma vie professionnelle, à mon expérience au festival, puis j'en suis vraiment heureuse encore aujourd'hui, 8 ans plus tard.
Avais-tu déjà un réseau avec les restaurateurs, avec les chefs, ou ça s'est construit petit à petit, ou t'as tout simplement hérité des 20 dernières années de Montréal en Lumière?
Ben oui, il y avait déjà un beau travail qui avait été fait par Germaine Salois avant, Isabelle Plante, Michel Labrec, Jacinthe Marleau. C'est les équipes qui étaient là avant moi. Donc, je tiens à souligner leur travail d'organisation pour que ce festival-là se passe. Tu sais, il y a tellement de rouages, il y a tellement d'étapes pour en arriver à ce qu'on voit sur le site web, à ce qu'on annonce durant la conférence de presse.
Ben oui.
Il y a beaucoup de choses. Et puis, ils avaient déjà mis la table, si je peux dire ça. Puis moi, j'ai juste continué le service et j'ai nourri les relations qui existaient déjà de plusieurs restaurateurs. Mais, tu sais, depuis le début du festival en 2000, il y a 225 restaurants en tout qui ont participé au festival, mais là-dessus, il y en a quand même 140 qui ont fermé. Donc, on a plusieurs nouveaux restaurateurs qui arrivent à chaque année. Donc, moi, je vais les voir, je jase avec eux. Puis, tu sais, je pense aussi que depuis 8 ans, les gens commencent à me connaître un peu.
Maison. On nous a parlé de toi très souvent et c'était toujours en bien.
Hein. Toujours.
Ça me touche. Ça me touche.
Vraiment, toujours.
Ton nom a popé plusieurs fois dans les conversations.
J'ai perdu ma question, comme d'habitude.
Ah, t'as perdu ta question. Donc, alors, c'est super de voir que tu vis ta passion. Et ça se ressent dans un festival. Ça se ressent, de toute façon. On voit beaucoup de passion dans ce festival. Nous, en tant que spectateurs, en tout cas, on a vu ça. Alors, explique-nous. En mai, tu choisis ton thème. Là, vous êtes une équipe de combien à ce moment-là? Parce que je suppose qu'elle a évolué avec le temps.
Ben là, elle est une équipe de 1. Donc, c'est moi qui...
Une belle équipe!
Oui! Quand même, passionnée. En tout cas, la passion est là. Puis, en fait, mon équipe arrive plus fin août. Donc, mais là, moi, entre mai et le mois d'août, la thématique, évidemment, on a des meetings de gestion à l'interne qui commencent déjà. Donc, je vous explique, ce sont des meetings avec tous les départements qui sont impliqués dans la construction de Montréal en Lumière, de tous les volets, hein, musical, le volet extérieur, la nuit blanche et le volet gastronomique.
Pour trouver les dates, booker avec la mairie,
tout coordonner.
Tout coordonner, puis aussi travailler ensemble, hein, tout de suite parler des idées. Moi, je partage mes idées sur les thématiques, on en jase ensemble, on échange. Des fois, ça peut inspirer Morin à la programmation musicale. Morin, lui, peut m'inspirer avec des idées de show qu'il veut programmer pendant le festival. Donc, ça aussi, on tient ces meetings-là quand même hebdomadairement. Donc ça aussi, c'est du travail qui commence. Puis tu sais, il faut parler de marketing, de promotion, de commandite. Il y a quand même plusieurs départements. L'aménagement, la logistique, il y a beaucoup, beaucoup de départements. Donc moi, je travaille et je visite des restaurants. Je me tiens au courant, je lis beaucoup de critiques. Tu sais, des nouveaux restaurants qui ouvrent.
Est-ce que c'est ça partout dans le Québec ou qu'à Montréal, principalement à Montréal?
Montréal en lumière, c'est que des restaurateurs de Montréal.
Toi, ton intérêt?
Moi, je visite à l'extérieur, je visite tout parce que je veux me renseigner beaucoup sur les producteurs, en fait, parce que ça, c'est une passion qui me tient à cœur. Parce que dans le Montréal en lumière, on a le volet Bonne Table, on a les 50 restaurants, mais on a le quartier gourmand aussi. C'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est un volet qui sert à démocratiser les produits locaux. Donc, je vous explique, c'est un lieu dans la maison du festival au deuxième étage dont l'accès est gratuit. C'est deux week-ends pendant le festival. On a une programmation axée exclusivement sur les produits québécois, des spiritueux ou des produits de la mer, des produits de la forêt.
Du Sébaste, Florimond,
oui.
Anto a préparé
le sel
Saint-Laurent. Mais là, cette année, c'était Alcyon. L'année passée, on avait le sel Saint-Laurent. Exact. On a eu une journée sur la culture culinaire autochtone avec Maxime Lisotte.
Oui.
Donc, tout ça, c'est une programmation que moi, je bâtis. Et puis, c'est au fil des visites que je vais faire en région, des lectures que je fais. Puis ça, j'en suis très fière parce que c'est gratuit. Tu sais, ça enlève le côté élitiste qu'on peut attribuer parfois aux produits locaux. Le côté inaccessible, cher, dispendieux, ben là, les gens peuvent venir goûter gratuitement. Il y a des démos culinaires. Ils rencontrent des producteurs, ils jasent avec eux. Il y a des producteurs qui viennent de partout. Tu sais, on a une journée dédiée au fleuve Saint-Laurent. Il y a les gars de Chasse-Marie, Guillaume de Chasse-Marie, qui est venu faire goûter ses bourgots. Il y a Alcyon qui était là. Il y a Antoine Nicolas de Océan de Saveur qui est venu. Puis Florimond qui est venu nous cuisiner du Sébaste. Oui. Donc, tu sais, c'est vraiment des belles journées. Donc, tu sais, je fais ça aussi à travers le Québec.
Moi, j'ai retrouvé ma question.
Ah.
Est-ce que c'est toi qui proposes à des restaurants, à des nouveaux restaurants, de faire partie du volet des grandes tables, ou c'est eux qui se manifestent, ou c'est un peu des deux, et c'est quoi les critères que tu sélectionnes?
Ben, c'est un peu des deux pour répondre à ta question. Il y a différents scénarios, par exemple, le Hautain. C'est moi qui les ai contactés pour participer à Montréal en lumière cette année.
Eh oui, ils avaient une table londonienne qui est sans déchets.
Mais ça, il y a une belle anecdote autour de ça.
Ah.
Ouais.
On aime ça, nous,
les ouais, anecdotes. Ben oui,
on bien.
Puis ça va bien illustrer aussi ce qui se passe, en fait, lorsque je sollicite un restaurant pour participer à Montréal en lumière. Donc, j'écris à Noé Lénès, le chef. Je lui dis, est-ce que vous seriez intéressé à participer à Montréal en lumière pour le 25e anniversaire? Il me répond, écoute, Julie, je suis occupée en ce moment, je peux pas te répondre. J'étais à Londres en stage au Silo. Puis ça, c'était à peu près au mois de, je sais pas, juillet août. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, moi, dans ma tête, je sais déjà que je veux mettre les étoiles vertes Michelin à l'honneur, mais je l'ai pas dit à personne encore. Et là, j'écris à Noé, je dis, écoute Noé, en toute confidence, je vais mettre les étoiles vertes Michelin à l'honneur cette année. Puis Silo, c'est le premier resto zéro déchet au monde. Puis ils ont une étoile verte. Donc j'aimerais ça que tu les invites à Montréal en lumière. On va payer leur hébergement, leur transport. Demande-leur s'ils sont intéressés. Et là, Noé, ben il a fait la demande à Ed et à Ryan. Puis ils ont dit oui. Donc, tu sais, après ça, ben ils sont venus à Montréal en lumière, ils faisaient partie de la programmation.
C'est une belle histoire.
Tu sais, je veux
dire. Est-ce que tu connais cette histoire? Parce que moi j'en ai une aussi. Florian Descours, qui est le chef d'un étoilé vert, la Boriade en Ardèche, en France, il avait programmé ses vacances pour aller au Québec en septembre. Non, qu'est-ce que je dis?
En février.
En février. Et en septembre, ou je sais plus quand, il reçoit l'invitation de Montréal en lumière pendant qu'il était en vacances, pendant son temps de vacances. Il croyait que c'était une blague. Il m'a dit, je crois que c'était un spam, que quelqu'un avait trouvé mes dates et qu'il m'envoyait un spam. Il y croyait pas et ça a donné parfaitement bien. Et il était à l'auberge Saint-Gabriel avec Amédée.
Oui, il venait avec sa famille.
Il est venu avec sa famille.
Exact. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, tous les étoilés verts que j'ai sollicités cette année ont eu une belle réponse enthousiaste pour venir à Montréal. Puis comme c'était plusieurs restaurateurs de région en France, donc pas de Paris, et plusieurs ne connaissaient pas nécessairement le festival. Donc, j'avais le bonheur de leur expliquer, de leur parler au téléphone. Puis après ça, ça s'est super bien passé, vraiment.
Alors, juste pour revenir à la base, une étoile verte, C'est quoi exactement?
Alors, une étoile verte, c'est une certification de Michelin qui a été créée en 2020, mais les premières étoiles ont été attribuées en 2021. Donc, c'est pour souligner la philosophie éco-responsable de restaurants à travers le monde, hein, parce qu'il n'y a pas juste en France. En France, c'est le pays où il y a plus d'étoiles vertes, mais dans toutes les sélections de Michelin, il y en a 500 en tout à travers le monde. Donc, et ils vont, les inspecteurs ont des critères assez précis, cuisine de saison, cuisine locale, engager le dialogue avec les clients sur l'éco-responsabilité, évidemment zéro déchet. Dans le cas du silo, même leur mobilier est fait à partir de bois recyclé. Donc, il y a une démarche très, très profonde, tu sais, pour l'avenir. En fait, Michelin en a parlé lors de la cérémonie de lundi. D'ailleurs, le président de Michelin en a parlé des étoiles vertes. C'est lui qui a présenté les étoiles vertes. Puis il disait que c'est vraiment pour avoir le regard tourné vers l'avenir, tu sais. Puis quand j'ai entendu ça, j'étais contente parce que moi, quand j'ai choisi les étoiles vertes pour la thématique, c'était, ma thématique, c'était Montréal en lumière, 25 ans de lumière d'hier à demain. Et le demain, c'était d'avoir les yeux tournés vers les 25 prochaines années. Puis je trouvais que les étoiles vertes, ça représentait bien ça, c'est-à-dire l'éco-responsabilité, que c'est une discussion qu'il faut avoir, on n'a plus le choix, là.
Est-ce que il y a une certification similaire au Québec ou au Canada?
Ben, ce que je, rapidement là, je pense à la fourchette bleue, par exemple, tu sais, qui elle va donner cette certification là à des restos qui utilisent des poissons qui sont ben qui sont dans la liste des poissons du Saint-Laurent qui sont avalorisés par la fourchette bleue, qui est quand même très très intéressant. Sinon, écoute, c'est une bonne question. Je sais pas, est-ce que vous avez la réponse?
À l'époque, je me souviens que la ville de Montréal, Tourisme Montréal, avait lancé une certification écologique. Ça a duré, je pense, un an ou deux. La Lou était en tête de ce classement, puisqu'il était très impliqué là-dedans.
Le restaurant La Loue.
Feu, malheureusement.
Qui a participé à Montréal en lumière de nombreuses années.
On suppose, vu la qualité de sa cuisine
si,
à l'époque.
Oui, il y avait Esperandio qui était allé.
Oui,
ben, il y avait
tout à fait, avec Marc-André Jeté.
Oui. Mais il y a des grands chefs d'ici qui ont passé par là. Là, Jonathan Lapierre, il y a Marc-André Jeté, il y a Patrice Demers. Oui.
Ah ouais, donc c'était... ça sera une histoire à raconter un jour dans le podcast. On n'est pas là, on revient sur la certification.
très,
moi, je pense que ça pourrait faire l'histoire d'un podcast. On revient sur la certification.
Oui.
Alors, on parle beaucoup, on est là-dedans. Je voulais pas y aller, mais on y est allé. Michelin, beaucoup de gens, ça parle. Est-ce que ça vaut le coup de le faire venir? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur ça, toi, en tant que spécialiste?
Avec plaisir. Moi, je pense que Montréal mérite des étoiles Michelin. Moi, je pense que c'est une certification qui est importante pour le tourisme. C'est important pour la valorisation de nos talents ici. C'est important pour les chefs que leurs talents soient reconnus à travers le monde. Ils sont reconnus au Québec. C'est des ambassadeurs de nos produits locaux. En fait, c'est une vitrine Michelin pour les chefs d'ici, mais pour la culture culinaire québécoise, pour nos produits québécois. Tu sais, quand j'ai regardé le documentaire sur trois étoiles Michelin, une étoile verte aussi, lundi soir au FIFA, et Trois Gros nous présentaient tous les producteurs avec lesquels ils travaillent. Hein. C'est comme s'ils déconstruisaient un peu ce qu'il y avait dans une assiette chez Trois Gros. Donc, on a rencontré des éleveurs de chèvres, des éleveurs de bovins, on a rencontré des vignerons, on a rencontré des maraîchers. Mais moi, je regarde ça, puis je me dis, mais au Québec, on a ça aussi, hein? Puis on a des gens qui font bien les choses. Et après ça, nos chefs, eux, s'approprient ces beaux produits-là. C'est des rencontres humaines entre les producteurs et les chefs aussi, là, les producteurs viennent livrer directement chez les chefs. Ils développent des légumes ensemble. Il y en a qui utilisent, des chefs qui utilisent des caveaux de fermiers pour faire vieillir leurs légumes racines. Tu sais, mais tout ça, faut que ça soit valorisé, faut que ça soit montré à travers le monde, puis qu'on dépasse un peu, si vous voulez, le folklore de la poutine, du smoked meat, puis du bagel. Puis, tu sais, c'est des symboles importants pour Montréal, c'est important. Quand on va à Paris, on va voir la Tour Eiffel, mais pas que. Fait que quand on vient à Montréal, on mange la poutine, des bagels, puis du smoked meat, mais pas que. On va aussi dans des restaurants qui mettent de l'avant nos produits locaux et dont les chefs sont hyper talentueux et impliqués, tu sais, dans l'identité de Montréal, l'identité québécoise.
Alors, je vais te poser la question que j'ai posée à beaucoup de chefs locaux et invités. Est-ce que tu penses qu'au point de vue international, Montréal et le Québec sont un peu sous-cotés et méconnus?
Ben, ils sont méconnus, Donc, c'est un peu l'œuf et la poule, dans le sens qu'ils sont, ils sont sous-cotés parce qu'ils sont méconnus. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on gagne à être connu, mais je pense aussi que on a une jeune histoire, on n'a pas le poids de la tradition, tout est à faire. Tu sais, on a des hommes comme Normand Laprise, Martin Picard, mais avant ça aussi, il y en a eu d'autres, mm-hmm. là, excusez-moi de ne pas les nommer, mais je pense à Monsieur Grappe, par exemple. Mm-hmm. Mais
qui,
tout ça,
qui
c'est...
était là aussi.
Oui, au Rose Ross. Oui, j'adore Monsieur Grappe, qui a été aussi un consultant important dans l'histoire de Montréal en Lumière. Là. Son apport dans le festival a été...
Son apport en général dans toute la gastronomie québécoise... Là oui. aussi, ça vaut un podcast ou deux.
Ouais, absolument. Mais ça date des années 60, tu sais, ça date de l'Expo 67. Fait que c'est jeune comme histoire, là. Fait que je pense aussi qu'il faut être clément à notre égard, à l'égard des chefs qui sont en train d'écrire l'histoire de la gastronomie québécoise, puis de la culture culinaire québécoise aussi, tu sais, on a beaucoup à faire encore. Donc, laissons le temps aussi, là, tu sais, ça va arriver un jour. Ça va arriver dans un avenir. Je suis certaine, j'y crois. Ouais.
Avec des festivals comme Festival en Lumière côté gastronomie, c'est sûr que... Mais ça résonne pas encore assez à l'international. Ça résonne, les gens commencent à en parler, mais ouais. ça va éclore un jour.
Ben, je pense qu'il y a des chefs qui m'ont dit cette année que s'il y avait eu un grand écho en France, au Montréal en Lumière, particulièrement cette année. Ben, je pense que, tu sais, les Glenville, Adrien Cachot, Mathias Marc, Julien Royer de ce monde, Emmanuel Pilon de ce monde, ont beaucoup fait pour que ça fonctionne. Puis merci aux réseaux sociaux, hein. Je pense que l'information, tu sais, se véhicule plus rapidement. Si on se ramène 25 ans plus tôt, la seule façon d'avoir des infos sur un chef, c'était à travers des livres de recettes, hein. Ouais. Il y avait pas d'Internet,
Il y avait les journaux.
Il y avait les journaux, puis il y avait pas d'émission de télé non plus, hein. Il y a 25 ans là.
Les chefs étaient dans leur cuisine. C'est un peu Paul Bocuse qui a amené le chef à sortir de sa cuisine. Ça tombe bien, c'était le premier invité de Montréal en Lumière
exact.
Il y a 25 ans.
Ouais.
T'étais pas encore
non.
là.
Non, mais j'étais dans les mêmes bureaux, par exemple, que l'équipe. Mais oui, Paul Bocuse, ça a donné le ton quand même, hein, à Montréal en Lumière.
Certain. Difficile de passer au-dessus de ça, hein.
Ouais, le pape de la gastronomie à Montréal, quand même, hein.
Et en plus, il y a eu une évolution dans la mentalité des cuisiniers, des chefs eux-mêmes. Et toute une nouvelle génération, Glenville, on l'a vu, on l'a croisé, c'est quelqu'un d'extrêmement humain.
Oui.
Je dis pas que Bocuse aussi était extrêmement humain. Mais une génération où c'était l'abus, on poussait,
on criait,
ouais. On tapait, on envoyait des casseroles.
On intimidait, ouais,
donc
ouais.
Il y a pas forcément une positive.
Il y a encore une toute une génération, en France en tout cas.
Il y en a encore beaucoup, mais ceux qui sont invités, ceux qui ont été invités au Festival Montréal en Lumière cette année en tout cas, c'était vraiment
Ils t'ont pas jeté de casserole dessus?
Non, ils m'ont pas jeté.
Oh, ils ont été gentils avec toi.
mais j'ai écouté le podcast avec Julien Royer, puis il tenait, il en parlait d'ailleurs de ça, tu sais, il disait, il parlait en fait du retour un peu de la main d'œuvre parce que la nouvelle génération de chefs est beaucoup plus humaine avec sa brigade, tu sais, donc c'est fini le temps où on crie sur les chefs.
Plus que ça, quand je fais de la promo aussi, hein, j'en profite. Giuliano Sperandio, le chef du Taïwan à Paris, de Macaron Michelin, qui lui a carrément supprimé les coupures pour les commis, pour avoir des horaires plus faciles. Il fait des semaines de 3 jours et demi pour les chefs de partie, pour qu'ils puissent avoir une vie de famille, pour qu'ils puissent avoir une vie sociale. Et c'est, il y a des choses qui changent, même en France.
Oui, puis justement encore, là, dans le documentaire sur Trois Gros, lundi soir, on voit vraiment deux générations ensemble dans la cuisine. Là. Donc César, Trois Gros avec son père. Puis son père parle de son fils, comme chef de brigade, comme chef exécutif, puis il dit, tu sais, César, il crie jamais, tout est tranquille, tu sais, il y a pas rien qui déborde, donc tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis tu vois que Monsieur Trois Gros, qui est d'une autre génération, le peu de fois où il vient dans la cuisine pour travailler, c'est une autre énergie.
Ça se crispe un peu.
Ouais, un petit peu quand même, tu sais. Donc c'est intéressant, tu le vois ça, tu sais, en image là, c'est très 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 flagrant, ouais.
C'est la fin de cette première partie. On se retrouve dès demain pour la suite de cette conversation. Ciao, ciao!